En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour de Noé où il entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi, disait l'Évangile. D'accord, mais à quoi ? En ce temps de l'Avent de Véhil 19, à quoi il faut se tenir prêt ? Instinctivement, on aurait envie de dire, c'est l'Avent, on va se préparer à Noël, à la naissance de Jésus. Sauf que la naissance de Jésus, c'était quand même il y a plus de 2000 ans. Est-ce qu'on peut sérieusement se préparer à un événement qui a déjà eu lieu ? Tenez-vous prêt, disait l'Évangile, mais tenez-vous prêt à la venue glorieuse de Jésus, à la parousie, comme on dit en théologie. C'est elle qui est à venir. Et c'est tellement important que l'année liturgique est en fait encadrée par deux dimanches qui tournent nos regards vers la venue dans la gloire de Jésus. Ce premier dimanche de l'Avent, premier dimanche du temps liturgique, et le dernier dimanche du temps liturgique qui est la fête du Christ, roi de l'univers. L'année liturgique est encadrée par cet événement que nous attendons, la venue glorieuse de Jésus. Tel est donc le but de l'année liturgique, que nous soyons prêts, quand Jésus viendra dans la gloire, prêts à le suivre dans le royaume. Et cette préparation passe d'abord par une vigilance. Et on nous invite à ne pas suivre l'exemple des gens de l'époque de Noé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vécu comme si de rien n'était, jusqu'à être emportés par le déluge. Et pourtant, ils avaient reçu des signes. Les rabbins aiment à rappeler que Noé a construit l'arche pendant 100 ans. Si vous voulez vous amuser, vous allez regarder dans le livre de la Genèse et vous regardez l'âge auquel Noé commence à avoir ses fils et l'âge où on nous dit qu'il entra dans l'arche. Et vous avez, c'est comme ça qu'ils trouvent, ça a dû durer 100 ans. Mais si vous y réfléchissez bien, il construit une arche en plein milieu des terres. C'est quand même étonnant. On devrait avoir envie de lui dire, mais attends, il n'y a pas de fleuve ici, pourquoi tu construis un bateau ? Il n'y a pas de mer ici, pourquoi est-ce que tu construis un bateau en plein milieu des terres ? Mais voilà qu'ils ne se sont pas posé la question. On mangeait, on buvait, on se mariait à l'époque de Noé, jusqu'à ce que le déluge survienne. Ils n'ont pas voulu prêter attention aux signes qui leur étaient donnés. Or, nous avons, nous aussi, aujourd'hui, des signes qui nous sont donnés. Un premier signe, j'allais dire, il est même simplement dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Comment ça ? L'expérience que nous avons du monde que nous entoure, c'est que tout vieillit et tout passe. On voit, c'est l'automne, les feuilles des arbres tombent, les animaux, les plantes vieillissent, même les étoiles que les Grecs pensaient éternelles vieillissent et meurent. Alors comment se fait-il qu'on a une expérience d'un monde où tout vieillit, tout meurt, et que c'est une expérience que les hommes ont faite depuis qu'ils ont une conscience, et que l'on soit toujours déchiré par la mort d'un proche aimé? Comment se fait-il qu'on soit déchiré par la mort d'un proche aimé en ayant cette intuition que l'amour véritable devrait être éternel? Parce que notre expérience au jour, le jour, nous montre le contraire. Est-ce que l'évolution n'aurait pas dû faire pour nous, comme il fait pour la louve, par exemple? Quand elle a son petit louveteau là qui est mort, elle va le renifler 2-3 fois, elle le touche un peu de la patte, puis elle passe à autre chose. La vie continue et c'est tout. Nous avons un signe qu'il y a quelque chose de plus que simplement ce que nous voyons par cette intuition de l'éternité dans notre cœur. Nous avons des signes qui nous sont donnés aussi par l'Écriture aujourd'hui. Tenez-vous prêts, le Seigneur vient et le Seigneur veut vous emmener. Allez à la rencontre du Seigneur. Nous sommes faits, nous avons des oreilles pour entendre ce qui est dit et pour tirer conséquence de ce qui nous est dit. Donc, le premier aspect, c'est être vigilant. Nous recevons des signes pour être prêts. Nous sommes appelés à en tenir compte. Mais qu'est-ce que c'est être prêt? Être prêt à suivre le Christ dans le royaume? Le royaume de Dieu, la vie éternelle, c'est de participer, de partager la vie de Dieu, qui est une communion d'amour. Ah, du coup, on comprend mieux le commandement que Jésus donnait. Mon commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Voilà le commandement nouveau du Christ, qui est le commandement de la vie éternelle. Et du coup, être prêt, c'est avoir appris à aimer comme Jésus aime. Voilà, être prêt pour la vie éternelle, c'est avoir appris à aimer comme Jésus aime. Et du coup, on comprend que pendant l'année liturgique, on va nous donner à contempler la vie de Jésus. Ben oui, comment voulez-vous vivre comme lui si vous ne savez pas comment il a vécu? Donc, on va contempler la vie de Jésus pour apprendre à aimer comme il aime. Et on va donc commencer à le contempler à partir du moment où son visage nous est révélé. Et quand son visage nous est-il révélé pour la première fois? À la nuit de Noël. Donc oui, le temps de l'Avent va nous préparer à la célébration de Noël, mais dans un mouvement plus ample. Un mouvement qui est là pour nous donner de contempler la vie de Jésus pour apprendre à aimer comme lui aime. Alors nous pourrons le suivre à sa venue dans la gloire. Mais je voudrais encore insister sur un autre point qui pourrait passer inaperçu. C'est que la contemplation de l'amour de Jésus doit avoir lieu au sein d'un peuple. Vous avez peut-être fait attention dans la première lecture, on ne s'adresse pas à des individus, toi, toi par ici, toi par là. On dit « Venez, maison de Jacob ». Dans la deuxième lecture aussi, saint Paul adresse en vous, l'évangile aussi s'adresse à vous. Donc l'annonce n'est pas faite à des individus séparés les uns les autres, mais l'annonce est faite à un peuple. Nous sommes sauvés personnellement, mais au sein d'un peuple. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, parce qu'on est dans un temps, une société qui est très individualiste. Et souvent, on peut croire que la religion, c'est un peu comme une étape de développement personnel. Je fais un peu de sport pour être en forme. Je lis des choses pour maintenir mon intelligence. Et puis, je fais un peu de religion, entre guillemets, pour maintenir mon cœur. Non, ce n'est pas du développement personnel. C'est une vie où nous ne sommes pas tout seuls, comme nous ne sommes pas venus au monde tout seuls. Le salut vient pour nous au sein d'un peuple, et même plus particulièrement au sein de ce peuple maintenant. Et ce peuple maintenant, c'est-à-dire, je regarde les servants d'autel à ma gauche, à ma droite, c'est avec eux. Je vous regarde en face de moi, c'est avec vous. Je vous regarde de ce côté-là, c'est avec vous. Ce n'est pas avec d'autres qui viendraient, c'est avec ce peuple-là. Ça nous demande de sortir d'une imagination ou d'un rêve d'un peuple un peu parfait. Ah ben oui, si les gens étaient plus sympathiques, moins pécheurs, je les aimerais beaucoup. Parfois, on se dit ça de soi-même. Hein. Si j'étais moins pécheur, plus, je m'aimerais beaucoup. Non, c'est ce peuple-là que nous sommes appelés à aimer, et nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, maintenant, avec nos limitations. Ça a été, dans toute l'histoire de la révélation, un point essentiel. C'est surtout Moïse qui a été éprouvé là-dessus. À Moïse, plusieurs fois, il est éprouvé par l'idée « Ce peuple à la nuque raide et à la tête dure, on va l'effacer, là. On va les exterminer, c'est pas possible de continuer avec eux, et de toi, je vais faire sortir un peuple nouveau. » Et c'est avec lui qu'on continuera. Et Moïse, chaque fois, résiste à cette épreuve en disant « Non, ce n'est pas possible. C'est ce peuple-là que tu as fait sortir du pays d'Égypte. C'est avec eux que tu as fait alliance. C'est avec eux qu'il nous faut entrer en terre promise. » Dieu nous apprend cette fidélité à ce peuple qui a pourtant la nuque raide et le cœur dur. Parce que sa grâce est là pour briser les cœurs durs et leur redonner de devenir non plus des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair. C'est ce peuple-là. Alors vous allez me dire, ça tient du miracle hein, pour que ça arrive. Et je vous réponds, oui. Mais c'est bien pour ça qu'il faut que Dieu vienne. Non, si on pouvait faire les choses toutes seules, c'est pas la peine qu'il meure sur la croix, c'est pas la peine qu'il vienne, on se débrouille très bien. Mais c'est bien parce que la réussite d'un peuple où nous nous aimons les uns les autres comme Jésus nous a aimés, est miraculeuse, que ça a un intérêt pour le monde, et que nous avons besoin de sa grâce. Apprendre à aimer comme Jésus aime, c'est apprendre à aimer dans ce peuple, à aimer ce peuple. Oui, vraiment, aimer celui qui a une tête étrange, qui me dérange. Et je vous accorde que c'est difficile, et je vous accorde que c'est parfois douloureux. Cette difficulté, on la manifeste parfois par des choses très simples. Hein. Vous savez, c'est à la messe, parfois, on se dit, je vais essayer de me mettre dans un coin le plus loin des uns des autres. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Je peux prier tranquillement. Alors ça, vous avez tout à fait le droit de le faire lorsque vous venez prier seul dans l'église. Prenez la place qu'il vous faut. Mais la messe, c'est l'œuvre du peuple de Dieu. La liturgie, c'est ça ce que ça veut dire, œuvre du peuple. L'ergon, l'œuvre en grec, laos, laos ergon, liturgie, l'œuvre du peuple de Dieu. Et donc, nous devons manifester que nous sommes un peuple. Et quand on est séparé à gauche, à droite, si quelqu'un venait de l'extérieur, il se dit, mais ah non, c'est que des individus qui sont là. Mais lorsque nous faisons un groupe, alors on dit, tiens, ils se mettent ensemble, ils avancent ensemble. Et il y a un témoignage, il y a une force qui s'en dégage. Je voudrais souligner aussi que cet appel à former un peuple, et je voudrais là, si vous aviez commencé déjà à vous réendormir, je sais que c'est le matin, il fait un peu sombre, retrouver un peu d'énergie. Si le Christ nous appelle à vivre en un peuple, ce n'est pas pour que ce soit pénible. Ce n'est pas parce qu'il aimerait, voilà, ça va être bien pénible, ça m'amuse que ce soit bien pénible. Mais non, pas du tout. Mais c'est parce que Dieu veut nous faire découvrir là-dedans une liberté nouvelle dans la grâce, une liberté miraculeuse dans la grâce. Dans la deuxième lecture, vous avez entendu saint Paul qui disait « Revêtons-nous des armes de la lumière ». Bon, très bien. Alors imaginons, ça ressemblait à quoi les armées de l'Antiquité ? Alors vous avez les soldats qui portaient des glaives, parfois aussi un bouclier, vous avez les soldats qui avaient des arcs, il y avait ceux qui avaient des lances, il y en a qui étaient à cheval, il y en a qui conduisaient des chariots. Oui, moi j'ai que deux bras. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir un glaive d'un côté, je peux avoir un bouclier de l'autre. Mais si j'ai ça, l'arc, je peux pas l'utiliser, la lance, je peux pas l'utiliser, le cheval, je le conduis pas. Oui, si je suis tout seul, je suis vraiment limité. Mais si nous sommes plusieurs, si nous sommes plusieurs, alors chacun peut apporter ses armes, chacun peut apporter ses talents, chacun peut apporter ses qualités, chacun peut apporter ses charismes. Et ce n'est plus simplement l'usage de deux bras qui se met en route, mais c'est de fait l'armée de Dieu, munie de tous les charismes que Dieu nous donne, qui se met en marche et qui se met à la disposition des uns des autres. Je n'ai pas tel charisme, j'ai telle limitation. Oui, mais j'ai un frère qui l'a, ce charisme. Oui, mais j'ai un frère qui a cette capacité de don de force dont j'aurais besoin. Le peuple que Dieu veut constituer, c'est un peuple où les uns pour les autres, nous apprenons à nous reconnaître comme une bénédiction, comme la chance de profiter des charismes que Dieu donne et que nous n'avions pas personnellement. C'est cela que Dieu veut nous donner à découvrir dans ce peuple. L'un sait chanter, l'autre organiser, l'autre écouter, l'un sait préparer la cuisine, l'autre sait motiver, soigner, un sait faire rire, l'autre sait enseigner. Vous connaissez ce proverbe commun qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. » On peut garder quelque chose de cette sagesse à travers le peuple de Dieu. Tout seul, nos dons sont limités. Dans le peuple de Dieu, tous les charismes, tous les dons nous sont partagés. C'est pourquoi l'Avent est propice à la reprise des signes de fraternité dans notre communauté. Ce n'est pas pour rien que mon prédécesseur, le père François Potet, nous invitait à la sortie des messes à saluer au moins deux personnes qu'on ne connaît pas avant de saluer quelqu'un de connu. Construire ce peuple, ce n'est pas pour rien que nos journées d'amitié sont calées sur le début de l'Avent. D'ailleurs, vous pourrez profiter à l'issue de la messe, à la crypte, de passer pour déguster l'un ou l'autre des bons produits qui ont été préparés, ou pour partager le barbecue que nous organisons. Ce n'est pas pour rien que nous organisons une bourse aux talents. Le Christ nous invite à former ce peuple où sa grâce se répand. Ce peuple où ses dons, ses charismes sont une occasion de bénédiction les uns avec les autres, dans la joie et les épreuves, c'est vrai. Exerçons-nous à nous regarder les uns les autres comme une bénédiction, peut-être encore inconnue, c'est vrai, une bénédiction que Dieu nous envoie. Les païens s'émerveillaient devant la première communauté chrétienne, regardez comme ils s'aiment. Puissions-nous donner un écho contemporain à cet émerveillement ? Dieu notre Père, sois béni pour ce temps de l'Avent qui nous permet de ressaisir notre vocation et le cœur de notre attente. Nous voulons partager ta vie en devenant capables d'aimer comme le Christ aime, avec le secours de ta grâce. Que ton Esprit Saint nous illumine pour que nous intégrions profondément que le salut nous est donné au sein d'un peuple. Donne à notre communauté de travailler à établir cette fraternité dans laquelle œuvre ton salut. Garde-nous de la peur, garde-nous des mémoires blessées qui paralysent. Nous croyons que tu viens nous sauver, nous, ce peuple-ci, avec ces membres-là, ce peuple de la communauté de Notre-Dame du Travail. Amen.